L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne L'AJT du local, émission autour de l'actualité mayonnaise. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 octobre et nous parlons donc de la fin de l'opération Miam, la Mayenne à croquer. Les sites touristiques et les restaurateurs se frottent les mains. La fête de la science commence aujourd'hui à Laval et un peu partout en Mayenne avec des animations accessibles à tous. Et le dernier épisode de notre série autour des serres au comptoir à Forcé rencontre avec une productrice présente depuis le début du projet, une éleveuse de canards. Mais tout de suite, un point sur l'actualité en Mayenne. Un trafic ferroviaire perturbé à Laval à cause de la tempête. La Mayenne n'a pas été trop touchée par le passage de la tempête Alex cette nuit, mais elle a eu des conséquences sur le réseau SNCF, notamment en gare de Laval ce matin. Deux TGV annulés, de nombreux retards en cause des chutes d'arbres tombées sur les voies entre Nantes et Angers qui ralentissent le trafic. Les dépistages Covid recentrés au parc Saint-Fiacre à Château-Gontier. Déménagement du lieu de dépistage pour proposer un lieu à l'abri des intempéries. Le drive Covid n'est donc plus situé au village des commerçants de la Motte Vauvert, mais sous la halle du Haut-Anjou sur le parc Saint-Fiacre. Et le bus Covid avec la protection civile se positionnera juste à l'extérieur de la halle. Après le Tour de France cycliste, voici celui des V&B que va suivre Jean-Pierre Derouet, l'un des cofondateurs du groupe V&B à Château-Gontier. Il va visiter tous les magasins de son réseau pendant 4 mois. Départ hier pour plus de 14 000 km à travers 233 villes. Pour faire un parallèle avec le Vendée Globe et donner notamment plus de visibilité au skipper Max Sorel, sponsorisé par la marque. Et puis du foot ce soir, les Tangos affrontent le Red Star en national. Coup d'envoi du match à 20h au stade Francis Lebassère. Bilan de l'opération Miam, la Mayenne à croquer, tous les feux sont au vert. L'opération s'est terminée mercredi. Elle a été lancée début juillet par le conseil départemental en réaction à ce qu'il considérait comme le Mayenne bashing, le traitement médiatique de la situation de la Covid-19 dans le département. Le principe, on réserve un bon pour un site touristique, on le visite et on reçoit ensuite 20 euros à dépenser dans les restaurants participants. Succès immédiat puisque 15 000 bons avaient déjà été vendus début septembre. Quel bilan donc pour les sites touristiques? Nous avons interrogé Yann Hugedet, le directeur du refuge de l'Arche à Château-Gontier, et Pascal Trégan, le directeur du château de Sainte-Suzanne.
C'était une démarche qui amenait les Mayennais à redécouvrir les sites, à redécouvrir leur territoire. Et ça a d'ailleurs été finalement l'enjeu du post-déconfinement. Le tourisme régional, local a beaucoup joué cette année. Et donc ça a été très, très astucieux pour le conseil départemental d'accompagner cette aspiration qu'ont eu les Français à séjourner plutôt autour de chez eux plutôt que de traverser la France ou l'Europe. Puis la deuxième chose, c'est que nous, sites touristiques qui avons été fermés 9 semaines, eh bien qu'il y ait une émulation et donc que ça génère de l'activité.
Ça a bien fonctionné et puis le restaurateur à Sainte-Suzanne qui participe à cette opération m'en parlait hier ou avant-hier. Ils sont très satisfaits du résultat, ils ont reçu beaucoup de monde et puis ça les a vraiment aidés en ce moment. Une période pas très simple pour les restaurateurs et les hébergeurs. Ça leur a vraiment donné un coup de main très appréciable. Donc eux, ils sont ravis de l'opération. Ça a permis aussi à beaucoup de Mayennais notamment de redécouvrir leur département, d'aller visiter des lieux à côté desquels ils habitent en se disant on aura toujours le temps d'y aller, c'est juste à côté, et puis finalement on n'y va jamais. Il y a une motivation supplémentaire, ça fait travailler les sites, ça fait découvrir du patrimoine local et ça fait travailler les restaurateurs, donc c'est carton plein, quoi.
Même impression du côté des restaurateurs à Château-Gontier.
Lucie Pomard, gérante des Halles Boucherie Restaurant à Château-Gontier. Un bilan très positif parce qu'on a vraiment eu vraiment des gens qui sont venus découvrir le restaurant grâce à cette opération. Oui, très très belle opération qui nous a vraiment bien aidés pour nous relancer et nous aussi pour nous faire connaître puisque ça fait à peine un an qu'on est installé. Mais on faisait au moins une dizaine de tickets, surtout le samedi.
Monsieur Emery du restaurant La Querelle à Château-Gontier. Ça a vraiment très très bien fonctionné, même cartonné même. Durant l'été, au moins déjà par jour, c'est au moins une dizaine de personnes peut-être par jour. En fait, on a la chance, nous, d'être situés près du refuge de l'Arche. Et donc, les gens, en fait, à la sortie du refuge de l'Arche, venaient déjeuner ou dîner chez nous. Et grâce à ça, en fait, il y a plein de personnes en fait, qui ne pensaient pas qu'il y avait un restaurant par ici et qui nous ont découvert grâce à ça. Et donc, c'est une super opération. Et puis, en plus, ce qui est génial, c'est que avec cette opération-là, on travaille avec des producteurs locaux. Donc ça fait marcher tout le département et c'est ça qui est génial, quoi.
Jean-Baptiste, donc je travaille à la Villa Roma de Château-Gontier. On a vu énormément de clients que je pense que sans cette opération, on n'aurait pas eu. Ça nous a permis d'avoir une nouvelle clientèle, oui. Moi, je pense que renouveler cette opération l'année prochaine, c'est une bonne chose. Tout ce qui peut nous aider, il faut le prendre, quoi. Parce que c'est vrai qu'on vit une situation assez complexe. On sent aider, quoi, des choses comme ça, quoi. C'est direct, ça tombe tout de suite, ça arrive. C'est pas des choses qu'on vous dit qui va se mettre en place, c'est des choses, voilà, à l'instant T. C'est important.
Interrogé par téléphone, le restaurant Le Sofa, toujours à Château-Gontier, a comptabilisé, lui, 200 bons miam, soit 4000 euros de chiffre d'affaires supplémentaires, sans compter les clients « normaux », entre guillemets, qui sont venus accompagner ses clients. Aujourd'hui, vendredi, on jette un coup d'œil déjà vers le week-end, et entre autres, ses nombreuses animations pour la fête de la science 2020. Ne bougez pas, on en parle juste après Jet, Are You Gonna Be My Girl.
Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl?
Sur l'autre radio, vous écoutez l'agité du local. Rendez-vous habituel de ce début d'octobre. La fête de la science se tient à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 12 octobre à Laval et un peu partout en Mayenne. L'événement est coordonné par le Zoom, le musée scientifique situé à Laval. Interview enregistrée sur place il y a quelques jours, histoire de faire le tour de la programmation et de souligner l'intérêt de la fête de la science pour tout le monde. Oui, même vous qui avez oublié vos cours de biologie et de physique. Bonjour, bonjour à tous. Alors vous le savez, c'est très compliqué en ce moment pour tous les événements un petit peu en Mayenne, mais la fête de la science est bien maintenue. Ce sera du 2 au 12 octobre à Laval, mais aussi dans d'autres villes du département, avec un temps fort notamment le Village des Sciences les 10 et 11 octobre à Laval. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Claire Duquesnois, qui est en charge de la coordination de la fête de la science en Mayenne, et Guillaume Seguin, qui est médiateur scientifique et qui participe notamment à ce Village des Sciences. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors d'abord, première question, on le sait, c'est pas évident de maintenir les événements. Comment ça s'est passé justement pour garder les porteurs de projets mobilisés et les stands et les animations ?
Alors ça s'est passé plutôt facilement puisque quand on est venu vers les porteurs de projets en leur expliquant la situation et les nouvelles contraintes qui allaient leur être imposées, eh ben, on a eu une mobilisation très forte en fait, la même quasiment qu'habituellement. Et du coup, nous déjà, ça nous a fait très plaisir de voir que les porteurs de projets répondaient toujours présents. Et on est très contents pour le public qui va pouvoir retrouver de nouveau des interventions de qualité.
Donc interventions de qualité très diverses. Je viens d'en parler tout à l'heure. Donc un des temps forts, ce sera ce Village des Sciences. Village des Sciences dans lequel on pourra trouver quoi, plus concrètement ?
Alors plus concrètement, alors on pourra trouver une dizaine de porteurs de projets qui seront installés, puisque cette fois, c'est dans nos locaux, donc une taille un peu plus petite, un peu moins de porteurs qui seront présents. On pourra trouver des ateliers en lien avec la nature, en lien avec le patrimoine, puisque le Musée des Sciences notamment montrera un stand et sortira quelques pièces de ses collections. On aura les étudiants de l'ESTACA avec Pegasus et Flying West, on aura la Ligue, on aura pas mal de porteurs de projets, pas mal de thématiques différentes, et aussi les collègues du Zoom, je vois Guillaume à côté de moi, qui présenteront un petit stand.
Alors, donc justement, parlons de ce stand. Quelle en sera la thématique ?
Alors, la thématique, cette année, on a choisi de faire entre science et magie. Donc, ce sont des petites expériences présentées au public, donc des démonstrations, sous la forme de tours de magie. Alors, évidemment, je ne suis pas magicien, je suis médiateur scientifique, comme vous l'avez expliqué, mais c'est aussi pour montrer le lien très proche entre des phénomènes scientifiques et des tours de magie qui peuvent être montrés au public. Ah, donc je regarde le mystère entier, et donc si vous souhaitez venir voir, vous êtes les bienvenus évidemment.
D'accord, et donc pour avoir la chance de voir ces tours de magie scientifiques, on va dire, il faut venir quand, au niveau des horaires, comment ça marche ?
Alors pour le Village des Sciences, on garde les mêmes horaires que les années précédentes, donc les habitués là-dessus ne seront pas dépaysés. Le samedi 10 octobre, ce sera ouvert au public de 14h à 18h et le dimanche 11 octobre de 10h à 18h en continu.
La seule différence, en fait, c'est donc pas forcément les horaires, mais plutôt la jauge qui est réduite.
C'est ça. On s'est bien rendu compte qu'on pourrait malheureusement peut-être pas satisfaire tout le monde, qu'il y aura peut-être un petit peu d'attente, puisque les conditions actuelles nous contraignent à avoir une jauge de 30 personnes en termes de public au maximum dans le bâtiment.
Donc il faudra aussi profiter, pas rapidement, mais en tout cas ne pas trop flâner entre les stands.
Alors, il faut quand même prendre le temps, faut pas hésiter à poser des questions aux porteurs de projets qui sont là pour ça. Mais c'est vrai que la localisation du Zoom permet aussi au public qui aurait peut-être un peu d'attente d'aller faire un tour à la Périne, par exemple, le temps d'eux, en espérant que la météo soit de notre côté.
Alors ça, à voir justement ce week-end-là, on n'en est pas encore rendu là. Il y a aussi dans ce programme de la Fête des Sciences, trois conférences qui sont organisées. Et la première, ce sera sur la théorie des jeux. Alors, je pense que je suis un peu comme une partie des auditeurs. Je vois vaguement ce que c'est, sans vraiment savoir ce que c'est. Et est-ce que c'est l'objectif de cette conférence, justement, de vraiment expliquer ce qu'est la théorie des jeux et ses implications ?
Alors, c'est un petit peu ce que le conférencier Frédéric Rosard disait dans sa communication, justement, par rapport à cette conférence. C'est que tout le monde, en fait, l'utilise sans vraiment savoir ce que c'est. Ou même utilise le terme, la théorie des jeux. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ça, il n'y a pas tellement de personnes qui le savent. Et c'est un peu, effectivement, l'idée de cette conférence, c'est de mettre un peu la lumière là-dessus, sur cette notion de théorie des jeux, et de jouer avec le public pour tester est-ce qu'ils ont bien compris, est-ce qu'ils sont capables de l'appliquer.
Et donc ça, ce sera le 3 octobre en soirée ?
Tout à fait, à partir de 18h dans nos locaux au Zoom.
Et puis gros programme, puisque dès le lendemain, le 4 octobre, il y aura une autre conférence intitulée cette fois-ci « De la tête aux pieds ».
Alors cette conférence de la tête aux pieds, alors on est évidemment très content d'avoir l'ensemble de nos conférences, mais celle-ci change un petit peu puisque ce sont des sciences humaines qui vont être abordées. Donc ça change de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de conférences et ce sera tout, surtout ce qui est association dans les campagnes mayennaises de 1830 à 1930.
Ah oui, en effet, c'est pas forcément un thème que j'aurais pensé intégrer à la fête de la science, mais la fête de la science, c'est très large finalement.
C'est la fête de toutes les sciences, pour le coup.
Mais il y a quand même moins de sciences humaines qui sont en tout cas représentées là, sur ce week-end-là, j'imagine.
Tout à fait, il y a principalement des sciences en lien avec la physique, la chimie, la biologie, ce genre de choses, l'archéologie. C'est vrai que les sciences humaines qui ont leur place sont moins faciles à mobiliser sur cet événement et c'est une des raisons pour lesquelles on est très contente, d'avoir cette conférence.
Et donc pour terminer sur ce cycle de conférences, on en trouve une dernière le 8 octobre, qui là pour le coup nous permettra de partir, de remonter plutôt à l'origine de nos ordinateurs avec la machine de Turing.
Avec la machine de Turing, exactement. C'est un mathématicien qui nous fera cette conférence, donc Monsieur Reynaud, et qui viendra nous parler alors un petit peu d'Alan Turing, hein, le concepteur de la machine, mais aussi de cette fameuse machine, parce qu'il y a eu un film, il y a eu pas mal de documentaires, d'informations dessus. Mais alors là, ce sera, je pense, plus vivant et autrement plus interactif.
Et justement, l'idée, c'est, j'imagine, d'être très sérieux sur le contenu scientifique, mais que ce soit très ludique et très abordable pour un maximum de personnes.
Exactement, c'est vraiment l'idée. Et là, pour le coup, le conférencier n'en est vraiment pas à sa première conférence et il compte ramener un prototype de la machine de Turing, histoire de concrétiser un petit peu tout ce qu'il y a derrière ces notions.
Et qu'on puisse bien imaginer. Donc là, c'est vrai qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qui était proposé, en tout cas à Laval même, mais la fête de la science, c'est dans toute la Mayenne, avec notamment une association, la SD53, qui propose, comme tous les ans, ou comme en tout cas depuis un certain nombre d'années, des visites de la grotte de Sauges.
Tout à fait, donc une des grottes de Sauges qui sera visitable avec l'association justement ASD53 les 3 et 4 octobre. Donc ouais, ça c'est quelque chose qui marche très très bien et qui est évidemment sur jauge et sur réservation.
Comme pas mal de choses,
beaucoup,
j'imagine.
Comme beaucoup de projets cette année, oui.
Et ça veut dire qu'au niveau des réservations, comment ça se passe? Il faut contacter les porteurs de projets à chaque fois? Comment c'est organisé?
Alors la plupart des réservations se font directement auprès des porteurs de projets, tout à fait. Donc ça, ce sont des informations que le public peut retrouver soit sur notre site internet, donc www.zoom.laval.fr, soit sur le site national ou le site régional de la Fête de la Science. Si vous tapez « Fête de la science Pays de la Loire », vous devriez tomber dessus très rapidement.
Pour être sûr, en tout cas, d'avoir bien toutes les infos, puisqu'on ne va pas lister toutes les animations. Mais on va quand même continuer à en faire le tour avec, là pour le coup, un petit nouveau, on va dire, dans les engagés de cette Fête de la science, la médiathèque municipale de Louverné, qui propose là une exposition visible qui s'intitule donc « Voir les couleurs du monde », assez énigmatique.
Alors, la médiathèque, pour le coup, va proposer effectivement une exposition, mais aussi un atelier familial. Et on est très content d'avoir ce porteur de projet. Pourquoi ? Parce que c'est une première participation, effectivement, et que les médiathèques ne sont pas faciles à mobiliser sur cet événement. Et là, ce sont eux qui sont venus vers nous en nous disant « Ça y est, on a une caution scientifique, on travaille avec une enseignante en physique-chimie, on propose quelque chose, on espère que ça va passer. » Et le contenu nous a beaucoup plu et a été labellisé sans problème.
Donc, il rejoint l'aventure de la fête de la science.
Exactement,
cette année.
On espère qu'ils vont recommencer l'année prochaine.
Très bien. Parmi les autres structures engagées aussi autour de cette fête de la science, on retrouve le musée du château de Mayenne, entre autres.
Tout à fait. Le musée du château de Mayenne qui, lui, va proposer sur 2 jours, donc pareil, le week-end des 10 et 11 octobre. Si les gens ne peuvent pas se déplacer ou ne veulent pas se déplacer jusqu'à Laval, il y aura aussi Mayenne et d'autres lieux du département. Le samedi, un atelier familial, donc sur réservation, et le dimanche, quelque chose en visite libre pour parler du métier de forgeron sur le week-end.
Un autre musée propose aussi une animation plus spécifique par rapport à la fête de la science, donc c'est le musée du château de Sainte-Suzanne, avec donc le 11 octobre, un zoom sur les technologies qui permettent de révéler le patrimoine, c'est ça ?
C'est exactement ça, oui. Donc là, c'est aussi un porteur de projet qui se mobilise régulièrement, hein, le château de Sainte-Suzanne. Et là, l'idée, ça va être de parler patrimoine, architecture, mais via justement des outils numériques, ce qui, au final, n'est pas si fréquent.
Très bien. Alors après, on ne va pas non plus lister tous les événements qu'il y a, hein, qui restent quand même assez conséquents au vu des conditions sanitaires, on le sait, qui ne sont pas évidentes en ce moment. Je voulais vous poser une question, Guillaume Seguin, par rapport au public que vous accueillez en général lors de cette fête de la science. Est-ce que c'est le même public qui vient ici au Zoom, au musée, qu'habituellement, ou ça touche un public plus large, c'est surtout familial? Qui est-ce que vous trouvez?
Alors, lors de la fête de la science, on peut avoir effectivement des personnes qui nous connaissent, qui viennent régulièrement voir nos expositions, et de manière générale, c'est un public plutôt familial. Néanmoins, il y a aussi des personnes qui peuvent avoir, par exemple, un intérêt pour certains stands qui ne sont pas forcément les nôtres et qui viennent par curiosité aussi nous voir. C'est vrai que lors de la fédération, on brasse quand même énormément de personnes, de publics et de profils différents. Je dirais en majorité, ce sont des familles. On peut aussi profiter de la fête de la science pour avoir un public qu'on a peu finalement lors des visites au Zoom. Ce sont plutôt des personnes de tranche d'âge entre 20 et 30 ans qui aussi sont présentes lors de la fête de la science. Mais généralement, ça peut aussi donner envie de revenir nous voir ensuite au musée. Et c'est ce que j'ai pu observer, par exemple, l'année dernière, où des personnes ne nous connaissaient pas forcément. Et on a pu les voir venir quelques semaines après au Zoom, venir voir visiter le musée.
Donc ça donne envie, en tout cas, à certains, voilà, ici, de revenir ici au musée.
Ah oui, parce qu'on a beaucoup de questions sur nos missions, qu'est-ce qu'on fait. Donc effectivement, on parle de notre stand, mais il y a aussi toute une partie où on va parler de nos objectifs, de nos missions, de notre activité dans le Zoom, etc. Donc ça permet, la fête de la science, ça permet aussi d'ouvrir nos actions à des publics qui n'ont pas forcément l'habitude de venir nous voir. Donc c'est pour ça que c'est aussi très agréable et on arrive finalement à fidéliser, entre guillemets, de nouvelles personnes et à attirer de nouveaux publics.
Et en tout cas, pour le grand public, entre guillemets, faut pas hésiter à venir à la fête de la science, même si on n'y connaît rien, même si on n'est pas trop trop scientifique. C'est justement l'intérêt, c'est de découvrir toutes ces...
Ah oui, c'est sûr. On peut comprendre que les sciences, le domaine scientifique peut faire peur, mais l'objectif, au contraire, c'est à nous de nous adapter en fonction du public que l'on a en face de nous. C'est pourquoi on décide chaque année de, pour nous, en tout cas on parle pour le Zoom, de faire un stand qui va pouvoir justement s'adapter à toutes les personnes qui vont venir voir et observer. Donc c'est aussi pour montrer que des phénomènes scientifiques qu'on voit peut-être aussi tous les jours, mais sur lesquels on n'a jamais réfléchi, eh bien nous, on va essayer d'apporter justement ces questionnements et de permettre aux personnes qui le voient de comprendre aussi par eux-mêmes.
Donc comprendre un petit peu mieux ce qui nous entoure de manière générale, en fait.
Oui, c'est aussi l'objectif. Mais on peut avoir des personnes qui ne connaissent pas, des personnes qui se sont déjà posé la question, des personnes qui connaissent. Et finalement, on arrive toujours à créer quelque chose avec toutes sortes de publics. Celles qui savent, et ben justement, ça peut être un échange pour compléter des choses. Celles qui ne savent pas, ben là, au contraire, on va leur montrer qu'elles sont capables de le savoir. C'est aussi l'objectif.
Voilà. Mais c'est noté, en tout cas, pour cette fête de la science qui est maintenue à Laval et dans toute la Mayenne. Ça commence dès le 2 octobre et jusqu'au 12 octobre. Merci en tout cas Claire Duquesnoy et Guillaume Seguin d'avoir été avec nous. On le rappelle, par contre, il y a beaucoup d'animations. Il faut s'inscrire pour être sûr de pouvoir y participer.
Exactement, et nous tiendrons les gens informés des potentielles modifications qui sont malheureusement susceptibles d'arriver. Mais pour l'instant, on est plutôt très positif.
Très bien, bon, on suivra ça de très près. La fête de la science, c'est du 2 au 12 octobre. Et donc, pas de modification prévue pour le moment. Vous pouvez retrouver l'intégralité du programme sur le site du Zoom à Laval.
a rocky voice. They head by kick, we got a can rejoice. Nobody knows what they're looking for. A kind of battle axe and maybe more.
Caravan Palace avec Rocket For Me. Dernier reportage de notre série consacrée à l'épicerie Les Serres au Comptoir à Forcé, une épicerie en libre service 24h/24 avec des produits frais locaux, créée il y a 2 ans par Anne Janvrin. Et parmi les tout premiers à rejoindre l'aventure, on retrouve des éleveurs de canards que je laisse se présenter.
Je m'appelle Isabelle Royer et je suis de la Maison Royer à Quelaine. Nous sommes producteurs de canards gras et d'agneaux. On fait de la vente à la ferme et on vend aussi sur les marchés, quelques petites épiceries fines et puis également par l'intermédiaire du drive fermier 53 ou la ruche qui dit oui à Louvernay. Oui, on est installé depuis 1984. Ça a toujours été en constante progression. La vente directe, les circuits courts se sont développés en plus ces dernières années. Donc voilà, c'est toujours en augmentation. Chaque année, on élève, on gave et on transforme à peu près 1300-1400 canards par an. Oui, le foie gras, forcément, c'est notre produit phare, mais on utilise toute la viande du canard pour faire des confits, des terrines, et puis différentes recettes qu'on a depuis longtemps pour certaines, d'autres plus récentes. Notre dernier produit qu'on a fait en conserve, c'est le cassoulet. Puis Anne Janvrin nous a contactés pour qu'on puisse travailler ensemble et qu'elle puisse proposer nos produits dans ses casiers. Comment s'est organisée ? Elle nous contacte pour nous passer une commande en fonction de ses besoins et puis on la livre et après c'est distribué dans ses casiers. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui nous avaient dit qu'ils nous avaient connus par ce biais-là. Sur les casiers, Anne vend un petit peu de foie gras mais c'est ponctuel, c'est vraiment au moment des fêtes. Après, toute l'année, c'est plutôt nos produits, nos conserves, enfin nos pâtés, nos confits. Quelque chose qui marche bien aussi, c'est le magret fumé. Mais c'est plutôt ce genre de produits qui fonctionne bien dans les casiers. Et le foie gras, c'est plus ponctuel. Hein. Vraiment, c'est réservé aux fêtes de fin d'année. Eh bien, ce qui fonctionne bien, ça va être le magret fumé, les rillettes de canard et puis nos pâtés, parce que c'est aussi des petits conditionnements. Et à l'improviste, c'est des choses qui peuvent se faire facilement, se partager si on a du monde à l'apéritif. Si quelqu'un nous contacte et que c'est quelqu'un qui habite Forcé, forcément on va lui dire qu'il peut retrouver nos produits très facilement dans les casiers. Donc oui, c'est un intérêt. Notre clientèle, elle est très locale. C'est vraiment essentiellement des Mayennais. Et d'ailleurs, de toute façon, nous, on ne sort pas du département. Quand nos produits sortent du département, c'est que c'est des gens qui sont venus en Mayenne. Les gens aiment bien savoir d'où vient le produit, qui l'a fait, comment. Par la vente directe, ça nous permet aussi de répondre à toutes ces questions-là que se pose le consommateur.
Une trentaine de producteurs au total est donc associée au projet d'épicerie ouverte à tout moment de la journée à Forcé. Selon sa créatrice, la créatrice donc des serres au comptoir, son concept permet aussi d'éviter la désertification des villages et de fournir une clientèle âgée qui ne peut pas forcément se déplacer dans les exploitations agricoles. Lundi, nouvelle semaine, nouvelle rencontre, on part à la coutellerie du Maine-en-Joux. Mais avant ça, jetons un œil sur les animations du week-end et quelques temps forts. Avec un spectacle à Sablé, le magnifique Bon à Rien, ce sera demain à 17h à l'espace Madeleine-Marie. Attention, il y a eu un changement de lieu. Spectacle proposé par la compagnie Chicken Street, où donc l'acteur reconstituera des scènes de western spaghetti avec les moyens du bord, y compris donc des ballons de baudruche, des caisses en bois, mais avec toujours les musiques originales et donc si connues. Ça s'appelle donc le magnifique Bon à Rien, ce sera à Sablé demain à 17h. Ce week-end, vous trouverez aussi une conférence sur les fake news ou l'impact des réseaux sociaux. Ce sera donc toujours demain, mais à 14h cette fois-ci, à la bibliothèque de la Brulatte. C'est gratuit sur réservation au 09 67 30 73 46. Et puis on peut déjà jeter un coup d'œil à lundi avec une belle soirée autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce sera donc lundi à 18h15 à Laval avec deux invités, Angélique Delahaye, une ancienne députée européenne, et Guillaume Garot, actuel député plutôt et ancien ministre délégué à l'agroalimentaire. Ce sera la salle Athènes au Crèfe à Laval. Vous pouvez vous inscrire sur le site de la Maison de l'Europe. C'est la fin de notre émission L'Agité du local. À suivre ce soir à 19h l'agenda et à 20h passe-moi le thème. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi à 12h15 pour une nouvelle édition de l'Agité du local. D'ici là, passez un bon week-end.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.